enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais dire que cette retraite n'est pas un hasard. Dieu l'a voulu. Et j'aime souvent dire, quand on vient dans des moments comme ceux-ci, on peut atteindre tous les objectifs que l'on s'est fixés. Si tes objectifs étaient venir te faire suffisamment d'amis, tu en auras. Samedi, au sortir d'ici, tu auras un carnet d'adresses rempli. Mais si tu venais avec l'objectif de toucher Dieu et d'être touché par lui, tu les verras. Et je prie ici depuis lundi ou dimanche soir, quand vous avez commencé, un objectif fixe, précis, vous n'aviez pas, cela n'est pas encore tard. Il est possible encore ces jours, jeudi, après-midi, que vous puissiez vous dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais recevoir de ta part. Et une dernière chose, avant que je ne lise ces quatre passages, avec toute l'humilité que je peux avoir, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit, est-ce un homme, est-ce une femme, quel âge il a ou elle a, je ne sais pas. Mais je le sais, je le sens fort dans mon cœur, il y a quelqu'un dans la salle ce soir, qui a des grandes promesses de la part de Dieu et qui depuis plusieurs temps, plusieurs mois semble voir comme si rien ne va. Il est presque à bout. Au fait, il tient dans la foi parce qu'un jour il avait commencé. S'il devait regarder la réalité, tout le pousse à ne plus espérer. Et j'aimerais te dire, le temps qui te sépare de maintenant jusqu'en décembre sera encore plus dur qu'avant. Dieu m'a même donné un message pour te dire, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Donc j'aimerais te dire, le plus dur est à venir. Mais une bonne nouvelle, cela ira seulement jusqu'au 31 décembre 2000 à 24 heures. Et Dieu m'a dit de te dire, ça sera la fin de la saison des larmes. Et à partir du 1er janvier 2002, 0 heure, une nouvelle saison va commencer. Une bonne et une merveilleuse. Qui va te faire oublier tous les temps des larmes. Je sais, même quand je pars, tu as difficile à croire comment ça va se faire. Un peu comme Marie. Quand il lui a été dit, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle a voulu mettre la raison comment cela va-t-il se faire. Et j'aimerais vous dire ce soir, à vous à qui Dieu est en train de parler, que cela arrivera. Alléluia. J'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 37. On va lire plusieurs passages. Genèse 37, nous partons du 1er au 11e verset d'abord. Genèse 37, 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11e. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Je saute, Genèse 41, du 41e verset au 46e. Genèse 41, 41e verset jusqu'au 46e. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il les revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens, et l'on cria devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne n'élèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Paénakh, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, et de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Et enfin, le verset 46e, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Avant-dernier passage, Genèse 47e, nous allons lire 1 à 14 et puis 27. J'ai dit 1 à 14, 11 à 14 et puis 27. Je pars du verset 11e. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans les pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée des Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tous les pays, car la famine était très grande. Les pays d'Égypte et les pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans les pays d'Égypte et dans les pays de Canaan contre les blés qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Et puis verset 27e, Israël habita dans les pays d'Égypte, dans les pays de Goshen. Ils eurent des possessions et ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Et puis enfin notre dernier passage, Jérémie chapitre 18e. Nous lisons du 1er au 6e verset. Jérémie 18, verset 1 au verset 6e. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Et Jérémie parle maintenant. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Alléluia. J'aimerais que chacun de nous dise à son voisin, « Voisin, tu es de l'argile entre les mains du potier. » Et comme il vous a été dit, nous allons nous entretenir sur le thème « Dans la maison du potier ». Les derniers textes que nous venons de lire nous parlent d'une réalité. C'est une leçon que Dieu a voulu donner à son prophète, à son serviteur, sur la manière que lui, Dieu, agit ou mieux aime agir. Dieu dit à Jérémie « Lève-toi », c'est-à-dire quitte un point A et va vers un point B. « Lève-toi » et descend dans la maison du potier. Et Dieu lui dit, là, j'aimerais bien que vous puissiez souligner l'adverbe, là, je te ferai entendre mes paroles. Les leçons que Jérémie devait apprendre étaient des leçons spirituelles. Mais Dieu, comme un bon pédagogue, a utilisé des matériels didactiques. Les leçons cachées derrière ces réalités visibles, c'était des leçons spirituelles. Mais Dieu a utilisé des choses palpables, des choses de la vie courante. Et je pense pour que vous et moi, nous puissions bien comprendre ce que Dieu a voulu donner comme leçon à Jérémie, il est bon que vous et moi, nous fassions un peu ce voyage dans notre imagination, parce que quand on parle du potier, quand on parle de la maison du potier, plusieurs peut-être ne se représentent pas ce que c'est. J'aimerais que vous et moi, nous puissions nous imaginer Jérémie en train de se déplacer. Il se déplace de là où il était jusqu'à la cabane du potier. Et je le vois dans mon imagination, en arrivant dans l'enceinte de cet enclos, de cet endroit, Jérémie est frappé, je m'imagine, par 5 choses. Premièrement, quand il entre dans l'enclos, avant même qu'il arrive au niveau de la case, il est frappé par l'état du lieu. Il voit une grande quantité d'argile. L'argile, c'est terre, on peut dire c'est quelle couleur? entre le jaune et l'orange, je ne sais pas très bien, que l'on soutire pour un but bien déterminé, pour faire des choses bien déterminées. Et Jérémie, en entrant dans cet enclos, il est frappé. Il voit un grand amas d'argile. Et cette argile, c'est une matière première. Là, j'aimerais bien insister. C'est une matière première. C'est avec elle que le potier va faire toutes sortes de choses qu'il a en tête. Jérémie est frappé par l'odeur de cette matière première. Mais il est aussi frappé par une chose. Cette masse d'argile n'est pas pure. Il y a un mélange. Dans cette argile, il y a des racines. Il y a des herbes, il y a des scories, retirées de quelque part pour un but, mais l'on ne peut pas l'utiliser dans l'état premier. Cette argile est prise. Le potier a déjà en tête une idée de ce qu'il va faire avec cette argile, mais il ne peut utiliser l'argile telle qu'il est. Et quand il entre dans la cabane, dans la case du potier, Jérémie est frappé parce que Dieu lui dit, « Va là et je te montrerai comment moi j'agis. » Sûrement, il est frappé par la présence des jeunes gens qui sont au service du potier. Ils ont comme seul travail. Ils prennent cette argile, ils mettent par terre parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Et ils jettent de l'eau. Et ils essayent de marcher dessus pour rendre l'argile malléable. Parce que quand on retire, c'est encore dur. Or, pour le rendre malléable, pour donner de la forme à cette argile, il faut de l'eau, adoucir. Et c'est seulement quand cette argile est adoucie que l'on peut commencer à enlever l'herbe, les racines et les scories. Jérémie, il est frappé par ce travail. Il marche dessus, ces jeunes gens. Il est frappé aussi par le travail en chaîne que ces jeunes gens font. Après avoir marché dessus, ils commencent à enlever les racines, ils commencent à enlever l'herbe, et puis ils commencent à former des petites boules. Et en général, le volume de boules dépend de la chose que l'on veut faire. Une boule est petite, peut-être on veut faire juste une tasse. Si l'on veut faire une calebasse, on essaye toujours d'adapter le volume de l'argile, toujours matière première, pas encore travaillée, par rapport à ce que le potier désire faire. Et puis ces boules d'argile sont placées à côté du potier. Et le potier lui-même, quand il travaille, il a un instrument qu'on appelle un tour. C'est soit en bois, soit en métal, mais la plupart des fois c'est en bois. Ça commence comme ça en bois, puis en bas c'est comme une boule qui tourne. Et quand on prend l'argile, la stratégie c'est toujours vous prenez cette argile et vous la jetez avec violence sur ce morceau de bois, et quand ça retombe, c'est alors à ce moment, en tournant, en ayant de l'eau entre les mains, que l'on commence à donner de la forme à cette argile. Jérémie entre et il trouve ses potiers assis. Il a une position assise, avec ses tours tout au milieu, ces morceaux de bois qui plusieurs fois a reçu les chocs de l'argile, matière première. Je m'imagine Jérémie est frappé par la musculature du potier et de la sueur qui coule de son visage et de son front, comme pour montrer toute l'énergie que le potier met en jeu pour que cette argile matière première puisse devenir la chose que lui veut. Jérémie est aussi sûrement frappé par la concentration du potier. Le potier ne bouge pas. Il a son regard, il a toute sa personne concentrée sur cette argile qu'il est en train d'utiliser. Et j'ai essayé de m'imaginer, à chaque fois, Jérémie a vu le visage du potier changer. Son visage sûrement s'est illuminé, symbole de la joie, car l'argile a obéi. L'argile est devenue ce que le potier pensait. Il a donné des formes et puis finalement, il a pu soulever parce que c'était encore fragile. La forme est là, mais tout peut encore arriver. Et le potier est content, l'on sait voir sur ce visage où il y a plein de sueur qui ruisselle. Il enlève et il met de côté. Mais sûrement, de temps en temps aussi, il voit un visage qui est entre la joie et le désespoir. Parce qu'il se demande, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va réussir? Mais sûrement, il arrive aussi que de temps en temps, Le potier est triste parce qu'il a mis son énergie, sa concentration et le temps. Mais finalement, malgré ses mains, malgré tout ce qu'il a pu faire, l'argile n'a pas obéi. Et il est obligé avec déception de reprendre cette argile, de les refondre et de les jeter dans un panier parce qu'ils ont toujours un panier à côté. Et ce panier reçoit toute cette argile déjà retirée de l'endroit où il était pris. Les scories sont enlevées, les racines sont enlevées, mais au moment de recevoir la forme que le potier voulait lui donner, l'argile n'a pas répondu. Alors tout est à refaire. Plus loin, je parlerai des répercussions ou de l'image spirituelle qui se cache derrière tout ce que je viens de dire. Et puis enfin, en sortant de la cabane, Jérémie est frappé par encore trois choses. Quand il ressort de la cabane, il a vu ces paniers où repose tout ce qu'on a voulu, sur lesquels on a voulu travailler et donner une forme et qui n'a pas répondu. Il est frappé par ces fours qu'il voit parce qu'il y a toujours un four dans la parcelle du potier. Et dans ces fours repose tout ce qui a favorablement répondu au modélage du potier, mais c'est encore tout mou et c'est en train d'être séché. Parce qu'après que le potier ait travaillé sur l'argile, ça doit sécher. L'on ne peut pas boire sur un vase d'argile, mais qui n'a pas été séché. Parce que dès qu'on y mettra un liquide, ça va aussi tomber en bouillie. Et il y a là ces fours qui est en train de renforcer le travail que le potier a fait. Et je m'imagine encore que Jérémie est frappé quand il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu au départ, au sortir de la parcelle. Ses œuvres d'art finies. Il voit ses vases, il voit ses calebasses, et il peut, en regardant de là où il était entré, il voit des masses d'argile, plein de racines, mais quand il se retourne, il voit de l'autre côté, il voit des vases. Mais entre l'argile, plein de scories, l'argile, plein de racines, et ces vases qui brillent, que les hommes ayant des moyens, des richesses, viendront acheter et discuter même, et acheter à prix d'argent, il y a tout un processus, un long processus. Le vase ne devient pas vase par lui-même. Ce n'est pas qu'il est là du coup, pom, 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 il devient vase. La calebasse ne devient pas calebasse par elle-même. Cette belle statue ne devient pas statue par elle-même. Et j'aimerais vous dire, jeunes gens, ce soir, chacun de nous qui sommes ici dans cette salle, même moi y compris, nous sommes à quelques étapes de tout ce que j'ai cité. Certains, Dieu vient à peine de les prendre. Dieu, le divin potier, déjà là, dans cette masse d'argile, plein de racines et de scories, lui, il sait ce qu'il veut faire. Certains, on a déjà enlevé des racines, mais les serviteurs sont en train de marcher dessus. Et qu'est-ce que ça fait mal? Quand les hommes ou les circonstances que Dieu utilise pour que tu sois malléable et tout, tu dis, ces situations, c'est quelquefois l'argent qui ne vient plus. On marche sur toi. Avant ensemble, Lazarus, on bongo, pamba, pamba. Mais depuis que j'ai pris, l'on marche sur toi. Ce qui veut dire ce soir que personne ne marche sur moi. Ah, alors tu resteras argile. Si tu veux devenir vase, si tu veux devenir calebasse, si tu veux devenir vase d'honneur, il y a des choses que tu dois accepter. Certains ce soir, ils ont déjà quitté ce stade, mais ils sont entre les mains du potier lui-même. Il est en train de prendre certains et les jette avec violence. Piou! Je le sens dans mon cœur, il y a quelqu'un, Dieu va encore les jeter les jours qui viennent très fort. Mais ses mains vont commencer à te former. Alléluia. Ce jeune homme, lui, il a déjà quitté là. Lui, il est au niveau du four, aux osies, cacas. Bazo kaousayo. Il est presque à la sortie, mais pas encore. Et je prie que le potier demande aux jeunes serviteurs, ajoutez encore les makala. Ou baksamoto. Alléluia. Là, dans le four, se trouvent aussi d'autres. Et puis finalement, est-ce que moi-même, je puis dire que je suis déjà au dernier stade? Je ne sais pas. Est-ce que je suis déjà là sorti, séché, prêt à être utilisé? Je ne sais pas. Nous avons lu 4 passages au départ. Les 3 premiers passages que nous avons lus concernant Joseph présentent les 2 extrêmes du travail que le potier aime faire. Genèse 37, verset 1 à 11, nous parle de l'argile retirée de la terre, mais encore plein de scories. C'est de l'argile, c'est de la matière première. C'est quelqu'un, Dieu le regarde et dit, ah, quel potentiel il y a ici. Qu'est-ce que je peux faire de grand avec cette argile? Et j'aime beaucoup 2 choses que le Saint-Esprit a voulu bien épingler. Relisez avec moi. Vous savez, même les chiffres, même les nombres dans la Bible ne sont pas placés au hasard. Genèse 37, verset 2, dit ceci. Voici la postérité de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans. Plutôt, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Dites après moi, 17 ans. Merci beaucoup. Et allons ensemble dans Genèse 41, verset 46. Je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. La mienne, il dit, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Dites avec moi, 30 ans. Et si vous êtes fort en arithmétique, à 17 ans, la matière première. Mais à 30 ans, les vases. Mais entre la matière première et les vases, 13 ans. Entre les mains du potier. Oh, je prie qu'avec vous, ça soit moins. 13 ans de travail. 13 ans durant lesquels le divin potier a fait tout ce qu'il voulait faire. Et je disais, Genèse 37, 1 à 11, nous parle de l'argile retirée des terres, mais plein d'impuretés. Et Genèse 41, 46, Genèse 41, 41 à 46, et puis Genèse 47, 11 à 14, et puis 27, nous parle du vase fini, utile, prêt à être utilisé. Quand on arrive là, Joseph exerce l'autorité. Joseph accomplit des choses. Joseph dirige. Joseph est devenu l'homme que Dieu voulait qu'il devienne. Combien de temps Dieu va-t-il prendre avec toi et avec moi? On verra si je peux encore avancer aujourd'hui ou si je pourrais finir demain. Mais j'aimerais déjà dire une vérité. La longueur du processus dépend et du potier, mais surtout de l'argile. La longueur du processus dépend et du potier, mais le plus souvent de la réaction de l'argile. Mieux tu réagis, plus le processus est court. Plus mal tu réagis, plus tu es obligé de reprendre. Comme je disais, quand le potier a voulu faire et que finalement ça ne marche pas, il prend, il jette dans les paniers et finalement ça va retourner au départ. Tu reprends pratiquement les mêmes choses. Dans le travail du potier, il n'y a pas de raccourcis. Dans le travail du potier, il n'y a pas ce que les anglophones appellent « shortcut ». Le chemin est là, tu dis non, je peux prendre un bout de chemin arriver au même endroit. 13 ans durant lesquels Dieu travaille. Il travaille et il travaille encore dans la vie de Joseph. À 17 ans, le potier montre à l'argile où il veut l'amener. Il montre à l'argile la destination finale du processus qui allait prendre place dans sa vie. Et si vous êtes lecteur dans la Bible, vous savez que dans Genèse 37, versets 6 à 7, Joseph voit une vision. La Bible dit qu'il vit que lui et ses frères et toute sa famille étaient comme des gerbes. Ils étaient en train de lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, sa gerbe s'éleva et s'étend debout. Et les gerbes de ses frères l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Là, le potier parle à l'argile. Le potier dit à l'argile, voici où je veux t'amener. Et il lui répète même la deuxième fois, dans Genèse 37, verset 9. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il imprime encore, il dit, matière première, voilà ce que tu deviendras quand tu seras un produit fini. Et la matière première est contente. Voilà ce que je veux devenir. Comme quelqu'un a dit, quand Dieu nous parle, il y a deux montagnes. Il y a premièrement la montagne de la révélation et puis deuxièmement la montagne de l'accomplissement. Mais la plupart du fois, quand nous sommes sur la montagne de la révélation, nous voyons directement la montagne de l'accomplissement. Mais nous ne voyons pas la vallée qui sépare la montagne de la révélation de la montagne de l'accomplissement. Nous pensons que nous allons sauter de la montagne de la révélation jusqu'à la montagne de l'accomplissement. Et pourtant, nous sommes appelés à descendre dans la vallée. Et dans cette vallée, quelquefois, la montagne que nous avons vue disparaît de nos regards. De telle sorte que nous commençons à nous demander, est-ce que je l'ai vraiment vue? Est-ce que j'y arriverai? Et j'aimerais vous donner une bonne nouvelle, vous y arriverez. Parce que même celui qui vous parle, il y a eu des moments, il s'est demandé, est-ce que j'arriverai là où Dieu m'avait dit? Dieu dit à l'argile, voici où je veux t'amener. Voilà, mais je dis, l'aspect triste, c'est que nous pensons que ce que Dieu nous révèle lundi s'accomplit mardi. Ce que Dieu nous révèle en janvier s'accomplit en septembre. La matière première, comme j'ai dit, elle est déjà là, mais elle a beaucoup d'imperfections. Dieu ne veut pas prendre cette masse d'argile avec des racines, avec des scories, et directement donner une forme, sinon quelque chose n'ira pas. Dieu voulait que cette matière première, en finalité, appelée Joseph, devienne un homme responsable, un rassembleur, quelqu'un qui avait le cœur d'un père, sachant s'occuper des bonnes et des mauvaises brebis. Mais en ce moment-là, Joseph était tout sauf cela. Dieu voulait que Joseph, plus tard, devienne un planificateur, un économiste, quelqu'un capable de gérer, parce que nous voyons plus pour gérer la grande gloire qui allait reposer entre les mains de cette argile appelée Joseph. Mais voilà, Joseph comme matière première manquait de toutes ses qualités. Et comme j'ai dit, Dieu voulait un rassembleur ayant le cœur d'un père, mais Joseph, au lieu d'être un rassembleur, était un diviseur. Et Dieu était obligé d'enlever certaines choses. Quand lisons Genèse 37, verset 2, la Bible dit « Joseph rapportait à leur père les mauvais propos de ses frères ». Ça, c'était Joseph. Dieu dit « Voilà ce que je me réfère avec toi. Voilà où je veux t'amener ». Mais cette matière première a des défauts. Joseph, c'est un diviseur. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez que Joseph, quand il était avec ses frères, il était silencieux. Ses frères commençaient à parler. L'un disait, moi, j'aime pas la calvitie de mon père. Regarde sa calvitie. Joseph ne disait rien. Et quand le soir, tous les enfants rentraient à la maison, ils étaient étonnés. Les papas appelaient, Ruben, viens ici. Qu'est-ce que ma calvitie t'a fait? Ruben disait, papa. Est-ce que nous avons dit, papa? Et Joseph était tout calme. Parce que c'est lui qui a mené tout. Quand ses frères parlaient, la Bible dit, il s'est taisé. Lui était le rapporteur. Il venait et disait tout. Parce que papa était capable de rappeler à chacun, Lévi, toi tu avais dit ça. Et avec cela, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était beaucoup aimé de son père. Mais en même temps, division dans la famille. Ses frères ne les supportaient pas. Il veut montrer quoi? Deuxième défaut que Joseph avait comme matière première, c'est lui que Dieu voulait un homme ayant les yeux ouverts sur les besoins des autres, avait été déformé par les comportements de son père vis-à-vis de lui. Il s'aimait beaucoup trop. En bon français, on dirait qu'il était un narcissique. C'était quelqu'un qui avait les regards tournés vers lui-même. Genèse 37, verset 3 dit, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. » Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Quelqu'un qui avait les regards sur lui, qui se considérait important, mais pourtant dans la stratégie de Dieu, Dieu voulait quelqu'un plus tard qui pouvait avoir les yeux tournés vers les besoins et les regards des autres. La matière première est là, mais il y a des choses qu'il faut enlever. C'est lui que Dieu voulait, un homme sage, un homme réfléchi, sachant ce qu'il doit faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire, était tout sauf un homme sage. Plus tard, nous voyons Joseph devenir sage. Mais au départ, quand nous lisons tous les chapitres de Genèse 37, nous voyons Joseph être détenteur de beaucoup de choses sauf de la sagesse. Au fait, la sagesse, elle est définie comme étant la capacité qu'a un homme d'avoir une justesse dans le jugement, basée sur une connaissance et une maîtrise profonde des paramètres. Les sages, ils savent juger. Il a un jugement juste, pesé. Et la sagesse se fait voir par notre manière de parler et par notre manière d'agir. Mais Joseph a tout, sauf la sagesse. Et deux exemples peuvent nous les montrer. L'on voit d'abord, premièrement, Il sait que ses frères ne l'aiment pas. Ses frères savent que papa fait du favoritisme. Mais la Bible dit, Joseph eut un songe. Et dans ce songe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que sa gerbe était restée et les gerbes des autres étaient agenouillées. Il sait déjà qu'on ne l'aime pas. Il sait déjà que les autres disent, toi tu es le favori de papa. Et Joseph vient en souriant. Il dit, Ruben, alors tu ne peux pas me qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce que les autres allaient l'applaudir? Déjà, on ne l'aime pas. Et la Bible dit, quand il raconta ses songes, ses frères les prirent en haine. Il est spirituel, il craint Dieu, mais il manque la sagesse. La Bible dit, quand il dit cela, ses frères les haïrent. Mais là, ne s'arrête pas tout. Quelques temps après, la Bible dit, il eut encore un autre songe. Déjà qu'on l'avait haï. Et il s'élève. J'ai encore rêvé. J'ai rêvé qu'il y avait le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles, et vous tous vous êtes agenouillés devant moi. La matière première, comme je disais, elle est là. Mais la matière première manque de beaucoup de choses. Dieu sait que s'il prend cette matière première telle qu'elle est là et l'amène à assumer des responsabilités, il ne va pas rendre service à ce jeune homme, il ne va pas non plus rendre service au peuple sur lequel il est appelé à le placer. Dieu voulait un gestionnaire, un planificateur, mais Joseph n'avait pas tout cela. Et à cause du but que les divins potiers avaient, il a lancé un processus. Et derrière ce processus, apparemment, Joseph ne voyait pas la main du potier, mais pourtant la main du potier était en train de travailler. Un jour, il se réveille, son père lui dit, va apporter de la nourriture, va plutôt voir tes frères là où ils sont et viens, ramène-moi les nouvelles. Quand il arrive là, subitement, un processus entre en activité. Il arrive, la Bible dit, quand il était au loin, ses frères complotèrent. Il arrive, l'une des premières choses, Dieu permet qu'on lui enlève sa tunique de plusieurs couleurs. Vous savez, quand les divins potiers commencent à vous faire passer par un chemin, la plupart des fois, il vous enlève certaines choses qu'il va vous remettre. Il lui a enlevé l'honneur, il dit, tu l'auras, mais pour t'enseigner, tu dois apprendre. Tu dois passer par un chemin. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est au milieu de nous ce soir. À un moment, lui et nous, nous étions en train de passer par les hauts fourneaux du divin potier. Un jour, il m'a appelé et dit, Yadalo, tout est comme un slogan spirituel. Oh, nous serons la tête et jamais la queue, dit, entre nous. Hein? Tokanga Bible, est-ce que toi et moi, on est la tête? Et je me souviens, je portais des babouches terribles. J'ai regardé, j'ai dit, bon, écoute frère, je ne pense pas être la queue. Mais je sais que je ne suis pas très loin de celle-ci. Parce que si je disais, je suis la tête, c'est faux. Si je dis, je suis la queue, bien que je l'ai pensé, ça serait une insulte vis-à-vis de Dieu. Et j'avais mal au fond de mon cœur. Je commençais à me comparer avec mes amis qui ne connaissaient pas Dieu. J'avais l'impression que j'étais plus heureux avant de connaître le Seigneur. Dieu, quelquefois, nous enlève certaines choses qu'il va nous redonner après. On lui enlève sa tunique de plusieurs couleurs. Et on les prend, on les jette dans une citerne profonde. Là, c'est le travail du potier. Lui, il avait rêvé des hauteurs élevées. Il avait rêvé de la grandeur. Mais le divin potier dit, dans les processus, les chemins qui mènent en haut passent quelquefois par les bas. On les jette au plus profond. Et puis, le voilà. L'homme aux promesses de Dieu devient une marchandise. À deux reprises, il est l'objet des transactions. On discute les concernant. D'abord, quand ses frères les vendent aux Madianites, et plus tard, les Madianites les vendent à Potiphar. Et vous savez, quand on vendait un esclave, c'était une expérience humiliante. Il est vendu. C'est tout un homme qui est là. On est en train de discuter son prix. Et cette personne sait que j'ai les promesses de Dieu. Mais ce que Joseph ne sait pas, c'est qu'il est en train de passer par les mains du potier. Et j'aimerais vous dire une chose. Les divins potiers ne nous expliquent pas tout ce qu'il fait en nous. Et j'aimerais même dire mieux, il ne nous doit aucune explication. Certaines fois, nous pensons que si Dieu nous donne des explications avant ces situations difficiles, nous allons mieux les vivre. Quelqu'un me dit, si Dieu m'a visé, ça serait au moins comme une anesthésie. Si Joseph, Dieu avait dit à Joseph, écoute Joseph, quand tu arriveras là-bas, tes frères vont t'arrêter. Et puis ils vont te vendre. Et puis tu deviendras esclave. Et puis tu deviendras domestique. Et puis après, Baroko Selomakam, tu iras en prison, mais calme-toi.
Après quelques temps, tu deviendras premier ministre.
Ça allait être fantastique, n'est-ce pas?
Même quand on l'aurait vendu, il sait. Mais laissez-moi vous dire, Joseph ne connaissait pas. Il voyait seulement les choses se passer. Il voyait les choses se passer. Il ne savait pas qu'il était comme de l'argile entre les mains du potier. Mais ce que j'aime, durant tout le temps qu'il était en train de passer par ce processus, Joseph n'a pas renié Dieu. La plupart des fois, quand nous sommes en train de passer par le processus de modélage entre les mains du divin potier, nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Nous avons l'impression que celui qui nous a fait des promesses n'est plus là. Et la tentation du diable, c'est de nous dire, abandonne celui qui t'a abandonné. Lâche celui qui ne te soutient plus. Joseph aurait pu dire, mais si Dieu était avec moi, qu'est-ce qui m'arrive? Puisque la femme de Potiphar me propose toutes ces choses, je vais avec. Joseph ne comprenait pas tout. Mais il se disait une chose, je ne comprends pas tout, mais je garderai la crainte de Dieu jusqu'au bout. J'aimerais aller jusqu'au bout dans la crainte de Dieu. Et finalement, si ça ne se passe pas, je dirai Dieu. Moi, j'ai fait ma part et j'aimerais vous dire, Dieu tient toujours sa part du contrat. Tenez bon, craignez Dieu, quelles que soient les circonstances. Vous ne comprenez rien et j'aimerais vous dire, il ne vous expliquera pas tout. Mais tenez bon. Certains ne savent pas ce qu'ils deviendront. Beaucoup de jeunes gens qui sont ce soir en cet endroit, vous deviendrez ces vases que Dieu veut que vous puissiez devenir si la crainte de Dieu est la chose numéro un dans votre vie. J'aimerais vous dire, vous pouvez avoir des grandes promesses de Dieu. Beaucoup de choses que Dieu vous a déposées dans vos cœurs comme promesses. Si la crainte de Dieu n'est pas là, vous allez passer à côté. Et vous savez, passer à côté, nous ne pouvons pas les réaliser avec notre intelligence. J'aimerais réfléchir avec vous. Si Joseph était allé avec la femme de Potiphar, il aurait eu un semblant de soulagement. Sûrement, cette femme serait allée discuter auprès de son mari et dit, écoute, il faut augmenter ce jeune homme le salaire. Du reste, il travaille tellement bien, je trouve que le travail des domestiques n'est plus très bon. Fais de lui l'intendant, je ne sais pas moi, donne-lui autre chose. Et Joseph aurait peut-être vécu à côté de cet homme, peut-être qu'ils auront fini par empoisonner Potiphar pour que lui devienne le mari légitime. Mais dans sa pensée, il n'aurait pas compris. Il n'aurait pas su percevoir pleinement jusqu'où Dieu voulait l'amener. Ceux qui passent à côté, ici sur terre, ils ne comprendront jamais ce qu'ils ont raté. Vous les comprendrez mieux quand vous serez dans l'éternité. Quand vous y arriverez, Dieu te dira, voilà les choses que j'avais préparées pour toi. Mais voilà à cause de ces mauvais choix où tu es pas. Jeune fille, certains pour voir les choses que Dieu va faire pour eux demain doivent prendre la décision, je garde mon corps pur jusqu'au mariage. J'aimerais vous dire, ce n'est pas facile, c'est dur, et même c'est très très dur, que dis-je? C'est très 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 dur, mais j'aimerais vous dire, jeune fille, c'est faisable. Il y a des Esther qui peut-être demain deviendront la femme du président, la femme de celui qui dirigera ce pays, mais beaucoup de choses dépendent des portes que vous décidez de fermer. Il y a un moment dans la vie, il faut dire, je ferme cette porte et je ne l'ouvrirai plus jamais. Alléluia. Prenez cette décision. La Bible dit que Moïse, devenu grand, considéra l'opprobre de Christ meilleur que toute la gloire qu'il avait en Égypte. Il dit, je ne ferai plus cela. Est-ce que je me fais comprendre? Prendre certaines de cette porte, je la ferme. Les jeunes gens disent, gazon, parions. Entrer dans un pari avec Dieu dit, Dieu, parions toi et moi, que moi j'aille jusqu'au bout, dans la crainte de toi et que l'on voit jusqu'où tu vas m'amener. Lancez ces défis à Dieu et vous verrez. Mais certains dans l'éternité verseront des larmes. Parce que sur les chemins de la formation du potier, ils auront mordu aux tentations de l'ennemi. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui était invité à un grand festin. On lui avait dit, tu mangeras comme jamais. Tu n'en mangeais de ta vie. C'était à 15 km, à 10 km plutôt, il a marché 5 km. Il avait tellement faim. Mais en cours de route, il a vu des gens qui avaient des mangues crues et du sel. Qu'il commençait à lui dire, mais qu'est-ce qui te rassure? Que ton repas là, tu vas les trouver. Prends au moins ça. Il a supporté. Il a marché, mais les intestins ont commencé à parler. À un moment, il s'est dit, ah, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il s'est arrêté, il a pris une grande quantité de mangue crue qui, juste quand vous les voyez, ça fait monter la salive. Il a mélangé avec du sel et il a consommé. Et c'était bon, son ventre était rempli, mais déjà il avait une difficulté, ses dents commençaient à grincer. Et il a marché. Quand il arrive, il voit au loin une table comme jamais il n'a vu. Mais puis on lui dit, tu ne peux pas entrer. Parce qu'en t'observant, on a vu que tu t'es rempli. Les choses, il a dit, non, je peux me dégager. On lui a dit, comment? Il dit, je peux mettre les doigts. On lui a dit, non. Je sens que peut-être ce soir, je vais m'arrêter ici, peut-être on pourra continuer si le temps nous est permis. Mais jeunes gens, j'aimerais vous dire, beaucoup de choses dépendent des portes que vous décidez de fermer. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière ce soir. Alléluia. J'aimerais que les musiciens s'avancent. Alléluia. Nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Et les amis vont commencer à nous jouer un cantique.
Si le temps nous est accordé demain soir, nous prierons plus demain par rapport au travail que les poutiers peuvent faire en nous. Mais ce soir, j'aimerais faire un ou deux appels, surtout par rapport à la manière dont j'ai fini. J'aimerais spécialement m'adresser à une jeune fille. Elle a 23 ans, elle est là au milieu de nous ce soir. Elle a connu le Seigneur quand elle avait 16 ans et demi, à l'approche de ses 17 ans. Tout reste, quand je dis elle a 22 ans, elle les aura vers le mois, elle les aura au mois de novembre. Elle a commencé à craindre Dieu. Mais puis voici, aller à l'université, elle a subi toutes sortes d'influences. Tu es même sorti avec un homme qui est marié. Quand tu as connu le Seigneur, tu t'étais gardé pur. Permettez-moi les termes, même vierge. Et c'est en étant dans le Seigneur que tu as perdu cette vertu. Et avec cet homme, non seulement que vous avez fait tout ce que vous vouliez, mais vous êtes même arrivé à un avortement. Plus d'une fois, tu vis dans la culpabilité. Tu as comme l'impression que le plan de Dieu pour toi passe, n'a plus la joie du salut. Des fois, tu as l'impression que Dieu t'a vomi et le diable essaie souvent de te les mettre. Tu veux quitter cet homme, mais tu n'arrives pas. Tu le sens comme lié, engagé. Il t'a même promis, il t'a dit qu'il est prêt à se séparer de sa femme pour finalement te prendre. Tu sais que c'est faux, mais en même temps, tu ne sais comment les quitter. À toi, jeune fille, Dieu me dit de te dire, reviens. Certes, tu as renié les promesses que tu avais faites autrefois quand tu as marché avec zèle. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, comme cette masse d'argile qui n'a pas obéi quand on l'a jetée sur les tours, je suis prêt à te mettre à côté et reprendre encore. Car le potier dit, ma vertu, c'est la patience. Quand je vais donner de la forme à l'argile et que cela ne marche pas, j'ai toujours le temps pour refaire. Pour moi, le temps utilisé à former la chose qui ne répond pas n'est pas un gaspillage. Alléluia. Nous allons chanter ces merveilleux cantiques. Et j'aimerais du reste nous inviter tous à nous lever. Nous avons tous nos yeux fermés, je vous en supplie, je sens Dieu parler à nos cœurs.
Nanko kima wapi, ce qui n'a kalipsi, pomoy nanga. Matingana saleli okolo.
Alors que les chants sont en train de jouer, au travers de ces chants, Dieu lance une invitation et dit, venez. Venez auprès de moi, dites-moi tout ce que vous avez fait, ce que vous pouvez cacher aux hommes, ces choses qui vous rangent. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce soir, pasteur, je suis de l'argile, mais têtu entre les mains du divin potier. Je sens qu'avec moi il échoue. Il veut me donner une forme, mais je ne lui laisse pas me donner cette forme à cause de certaines choses que j'ai fait. Merci. Et ce soir, j'aimerais lui dire comme le chant le dit. Et je lui dirai, Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas, Seigneur, tu le sais. Y a-t-il encore quelqu'un qui me dit, pasteur, viens prier avec moi. Je suis de l'argile, c'est Dieu. Que le divin potier me donne la forme qu'il veut. Je ne veux pas échouer. Alors que vous avancez, parlez-lui. Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas comment vous marchez. Je ne peux pas
Papa,
Vous
êtes avancé, parlez-lui. Moi, je ne vous connais pas. Et même, je ne fais pas connaître ce que vous faites. Je ne sais pas connaître ce qui peut vous empêcher. Mais parlez-lui. Prenez une décision ce soir. Parlez-lui, parlez-lui. La Bible a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Merci Seigneur. Je voudrais faire un deuxième appel alors que les chants continuent. Et je l'ai senti très fort dans mon cœur quand j'ai prié. Je ne sais pas à quelle étape, à quel niveau du processus vous êtes. Mais il y a certains ce soir qui sont à bout. Qui sont fatigués. Qui arrivent même à se poser la question, divin potier, jusqu'où m'amènent ces expériences? Jusqu'où allons-nous? À quand l'accomplissement de ces choses que j'ai vues comme Joseph avait vu? J'ai vu l'élévation, mais je suis vendu. J'ai vu l'élévation, mais je suis accusé faussement et voici en prison. J'ai vu l'élévation, mais l'on m'oublie en prison. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu m'avais parlé, divin potier? Explique-moi, je voudrais savoir. Où est ta participation dans tout ce que je suis en train de vivre? Où est ta gloire dans mes larmes? Où est ta gloire dans ce que je suis en train de vivre? S'il y a quelques-uns ce soir qui sont fatigués et qui veulent dire, divin potier, je viens devant toi, je viens te parler de ma fatigue, avancez-vous aussi, alors que nous chantons encore. Où est-ce que j'irai? Merci Seigneur. Alors que vous vous avancez, parlez-lui. Parlez-lui. Merci Seigneur.
Ibisa mabenanga. Kolobana ye lisusu. Na imoko na kokite.
Alleluia.
Papa si babo moinanga. Ibisa mabenanga.
Moi-même je ne peux
pas.
Alors que les instruments continuent, je voudrais que vous puissiez élever vos voix, vous qui êtes ici. Parlez au Seigneur. En même temps, j'invite mon épouse, maman Viviane, à venir prier pour ces jeunes gens. Ces deux catégories qui se sont avancées ce soir. Ceux qui veulent dire comme Joseph, Seigneur, tu m'as fait des promesses. Mais quelles que soient les tentations, les pièges que la femme de Potiphar met sur ma route, je décide de continuer la crainte de toi. Afin de voir jusqu'où la sainteté, la crainte de Dieu amène. Mais aussi prier pour ceux ou celles qui sont fatigués.
Jésus, merci. Oh Seigneur, Saint-Esprit, merci parce que tu es au rendez-vous. Saint-Esprit, merci pour ce travail que tu es en train de faire dans le cœur d'un chacun. Cher Saint-Esprit, merci. Jésus, merci pour tous ces jeunes dont tu t'en occupes. Oh Jésus, merci parce que tu te glorifies. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, tous ces jeunes t'appartiennent. Seigneur, tu vois, ils se sont avancés. Seigneur, pour te dire qu'ils sont là, éternel Dieu de gloire. Qu'ils sont là, Jésus. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux, Seigneur. Occupe-toi d'un chacun, Seigneur Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, là où il y a la fatigue, fortifie, Esprit de Dieu vivant. Ceux qui sont tombés, Esprit de Dieu vivant, relève. Ceux qui sont tombés, cher Saint-Esprit, relève. Alléluia. 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 Oh Jésus, ta grâce, Seigneur. Ta grâce éternelle, Dieu de gloire. Seigneur, pardonne, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont dû à un moment donné régner. Seigneur, pardonne, éternel Dieu de gloire. Me voilà encore qui se tiennent devant toi. Seigneur, ils se tiennent devant toi pour te dire, Seigneur, me voici de nouveau. Merci parce qu'avec toi, Jésus, on peut toujours recommencer à zéro. Merci parce que tu es prêt, Seigneur, à refaire le travail avec ce jeune. Seigneur, Dieu de gloire, vas-y, Seigneur mon Dieu. Ils sont là, Seigneur, ils te demandent de recommencer le travail avec eux. Ils te demandent de refaire le travail. Seigneur mon Dieu, Seigneur Dieu de gloire, s'il te plaît, agis, papa. Seigneur, et ceux qui sont fatigués, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui se sentent au bout, Seigneur Dieu de gloire, fortifie. Que ta main toute puissante soit sur chacun. Seigneur, que ta main fortifie. Seigneur, que tu relèves. Seigneur, ceux qui sont tombés. Jésus, ta grâce. Alléluia. 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 Si nous pouvons faire silence maintenant, comme ça nous allons prier. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, encore une fois, je t'amène, Seigneur mon Dieu, ces jeunes. Seigneur, qui se sont avancés, Seigneur mon Dieu, vers toi. Seigneur mon Dieu, ils se sont avancés non pas vers un homme, mais vers toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu en qui ils ont cru. Seigneur, c'est pourquoi ils se sont avancés. Seigneur, honore leur foi, éternel Dieu de gloire. Honore leur foi et occupe-toi d'un chacun, Seigneur Dieu de gloire. Jésus, Jésus, toi qui peux recommencer, toi qui peux faire mieux que le potier lui-même. Seigneur mon Dieu, recommence le travail avec ceux qui se sont avancés, Seigneur, dans ce sens-là, ceux qui ont dû à un moment donné te régner. Seigneur, maintenant voilà qu'ils se présentent devant toi en disant, Seigneur, recommence le travail avec moi. Seigneur, fais avec moi ce que tu veux. Cette fois-ci, je me suis décidé, je me tiens devant toi. Seigneur mon Dieu, occupe-toi. Occupe-toi de ma sœur, occupe-toi de mon frère. Seigneur, et ceux qui sont fatigués, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui se sentent à bout, Seigneur, fortifie, fortifie, relève, fortifie, renouvelle. Seigneur, ta grâce, Seigneur, j'éloigne la main destructrice de l'ennemi envers ce jeune au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je me lève contre tout plan de l'ennemi envers ceux qui se sont avancés ici devant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler, Seigneur, ce que nous venons de recevoir. Mais continue à nous parler. Continue, Seigneur Dieu de gloire, à nous révéler, Seigneur mon Dieu, les choses cachées. Et rapproche-nous encore davantage de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
kokende lisusu wapi pamba te yo nde ozali liziba na bomoi yo nde ozali mwana nzambe oyo akolongolaka masumu Pasi ona zena ambo
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.